Bonsoir. Dieu vous bénisse. En prière. Père béni, nous sommes dans l'attente d'aller habiter chez nous, cette belle ville qui nous est décrite. Et nous voulons vivre en conséquence, de manière à ce que, lorsque tu viendras nous chercher, nous soyons trouvés prêts. Telle est notre prière ce soir. C'est aussi le but de nos rassemblements. Dans nos rassemblements, nous nous attendons à la venue du Seigneur, comme il l'a promise. Veuille bénir tes enfants ici ce soir. Ceux qui sont présents, ceux qui ne sont pas là. Tu bénis chacun, tous ceux qui tournent le regard vers le haut, sachant que c'est, comme Daniel autrefois, c'est l'heure de la prière, de l'offrande du soir. Que tu bénisses chacun, que tu le visites selon les besoins qu'il t'expose en ce moment dans ses prières. Pardonne nos péchés. Pardonne nos offenses et mets-nous, installe-nous dans le sentier dans lequel nous devons marcher. Éclaire-le-nous, Seigneur, que nous puissions marcher à ta lumière. Inspire ta parole ce soir. Enlève tout ce qui peut nuire à notre communion. Que ta grâce nous soit accordée. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur, nous t'avons prié. Amen. Ce soir, nous lirons dans Colossiens, chapitre 1er. Prêtons-moi. Je reviens en tête. Colossiens, chapitre 1er. Commence au verset 24. Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous. Et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps qui est l'Église. C'est d'elle que j'ai été fait ministre selon la charge que Dieu m'a donnée auprès de vous afin que j'annonce pleinement la parole de Dieu, le mystère caché de tout temps et dans tous les âges, mais révélé maintenant à ses saints. Dieu a voulu leur faire connaître la glorieuse richesse de ce mystère parmi les païens, savoir Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. On nous assoit. La perfection ne peut l'atteindre qu'en Christ. Il y a un grand mystère qui a été caché de tout temps, dans tous les âges, que finalement, lors du maintenant de Paul, s'est révélé aux saints. Pas à tous les saints, mais aux saints de Dieu. Amen. Il faut noter le caractère possessif. Révélé maintenant à ses saints. Ça se rapporte à Dieu du verset 25. Il y a les saints de l'Église catholique, il y a les saints d'ailleurs, mais ici, il s'agit des saints de Dieu. Et cette sainteté est reliée aussi à l'appel que nous avons de la part de Dieu, pour autant que ce soit Dieu qui nous ait appelés. Romains chapitre 1er. Fabrice, le mystère caché de tout temps, révélé à ses saints. Verset 5. Par lui, par Christ, nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi tous les païens que nous sommes. Les gentils, parmi lesquels vous êtes aussi les Romains, vous qui avez été appelés par Jésus-Christ. Alors, ceux qui ont été appelés par Jésus-Christ, à tous ceux qui, à Rome, sont bien-aimés de Dieu, appelés saints par vocation lors de l'appel, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Et Paul, lui-même, avait cette certitude qu'il était un saint de Dieu. Les saints de Dieu ont cet avantage, ce privilège d'obtenir la révélation d'un mystère caché pendant longtemps, révélé du temps de Paul et révélé aujourd'hui à l'Église, ou qui formait l'Église. Dans Éphésiens 3, l'apôtre dit Éphésiens 3, verset 8, il dit qu'il est saint. Il est un saint. Il est peut-être le moindre de tous, mais il est. Amen. Au verset 8, il dit, « À moi qui suis le moindre de tous les saints, il en est un. » Il en est le moindre, mais il en est un. C'est l'essentiel. Ça ne me dérangerait pas d'être le moindre. Cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Lui qui est le moindre des saints, celui qui annonce des choses que les gens ne comprennent pas, qui sont difficilement compréhensibles, il les annonce à des gens à qui ce n'était pas destiné au départ, les païens, les Éphésiens qui étaient là. Il dit, et de mettre en lumière le moyen de faire connaître le mystère caché. Amen. De toute éternité, en Dieu qui a créé toutes choses. Donc, même dans l'éternité là-bas, ce mystère était caché. Et vous avez ce privilège ce soir de le connaître. C'est un énorme privilège. On ne le connaît pas à l'Assemblée, mais on le connaît par révélation. Mais révélé à ses saints. C'est Dieu lui-même qui révèle. Donc, pour cela, il faut que vous soyez un saint qui lui appartienne. Dans Actes 27, Paul confirme bien qu'il appartient à Dieu. Dieu ne lui appartient pas, c'est lui qui appartient à Dieu. Actes 27. Verset 23, il dit « Un ange du Dieu à qui j'appartiens. » Donc, lui, il est là. C'est Dieu qui lui dit Fais ça, il le fait. Viens, il vient. Va, il va. Amen. Donne-moi telle chose. Et il doit aller chercher la chose et la donner à Dieu. Et non pas Dieu qui lui appartienne, à qui on dit toujours, Seigneur, donne-moi ceci, donne-moi cela. Dieu n'est pas obligé. Nous devons savoir que nous recevons toutes choses de lui par sa grâce. Il dit, j'appartiens à mon Dieu et je le sers. Ce n'est pas Dieu qui me sert, mais c'est moi qui le sers. Et que je sers m'est apparu cette nuit. Donc Paul est un saint appartenant à Dieu. Dans Acte 22, il montre bien que c'est Dieu lui-même qui l'a appelé. Il raconte ce qui lui est arrivé sur la route de Damas. Acte 22. Ananias lui dit ceci au verset 12. Il est en train de raconter. Or, un homme, Ananias, homme pieux, selon la loi, et de qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage, c'est très important. Quand vous habitez une ville, quand un chrétien habite une ville, comme Ananias à Damas, c'est très important que notre témoignage soit bon. Amen. De qui tous les Juifs demeurant à Damas rendaient un bon témoignage. Va se présenter à moi et me dit, Saul, mon frère, recouvre la vue. Au même instant, je recouvrais la vue et je le regardais. Il dit, le Dieu de nos pères t'a destiné à connaître sa volonté. Connaître la volonté de Dieu, il faut être destiné à cela. Dieu ne dit pas, ne fait pas connaître sa volonté à tout le monde, mais il a destiné certaines personnes, par exemple, à bâtir une église en cet âge. C'est dans sa volonté. Pas une église bâtie par les hommes, mais une église que lui bâtit lui-même. Les hommes sont en train de bâtir les leurs, leurs églises. Mais entre-temps, Dieu bâtit la sienne. Donc, il a destiné à connaître sa volonté. Il a aussi destiné à voir le juste. Amen. Comme on disait dimanche, il peut être là au milieu de nous. Certains le voir, d'autres pas. Et à entendre les paroles de sa bouche. Car tu lui serviras de témoin auprès de tous les hommes des choses que tu as vues et entendues. Quand on est témoin, il faut avoir vu et entendu quelque chose. Il ne faut pas aller témoigner des choses qui vous ont été racontées. Amen. Ne fût-ce que ce soit le pasteur ou pas, fût-il le pasteur, celui qui vous a raconté certaines choses, tant que c'est le pasteur qui vous les a racontées, vous ne pouvez pas témoigner, mais laissez le Saint-Esprit lui-même vous faire entendre et vous faire voir ce que vous devez entendre et voir. Ce mystère caché, ce n'est pas pour tout le monde. Quand, autrefois, Dieu envoyait des prophètes, ils venaient avec des messages mystérieux. Les prophètes d'autrefois, ils ont cherché à le connaître, ce mystère. Quand Ésaïe vient et dit « La Vierge enfantera », c'était mystérieux pour lui. Il a peut-être cherché à savoir ce qu'il en retournait exactement. Quand il dit « un enfant nous est né », est-ce qu'il est né, est-ce qu'il n'est pas né, est-ce qu'il va naître ? Mais lui, il dit ce qu'il voit dans sa vision. Mais il dit « un enfant nous est né ». Cet enfant, n'est-ce pas, sera appelé merveilleux, admirable, et ainsi de suite. C'était encore un mystère. dans le dépliant de, que frère Franck avait écrit, écrivant « Quand Dieu devint un homme », il raconte un peu la naissance du Seigneur, et il en parle disant « Mystère des mystères, le grand Dieu qui est devenu un homme ». Les prophètes d'autrefois donc ont cherché à connaître ce mystère. Ils en ont fait des recherches. Ils ont fait des recherches. Ils ont investigué, mais il fallait une révélation. Pierre nous le dit dans 1 Pierre chapitre 1er. Verset 10. Les prophètes qui ont prophétisé touchant la grâce qui vous était réservée. Et bien sûr que nous avons besoin de cette grâce. Et nous sommes heureux que Dieu nous ait réservé cette grâce. Parce que nous ne méritons pas. Personne ne mérite. Ni même la vision, comme on vient de chanter Jérusalem, voir Jérusalem parée d'or, voir les rues pavées d'or et toutes ces choses, il faut que Dieu lui-même nous révèle ce qui nous attend. Prophètes donc qui ont prophétisé, touchant la grâce qui vous était réservée, malgré nos fautes, malgré nos imperfections, Dieu nous fait grâce. On fait de ce salut l'objet de leurs recherches et de leurs investigations. Ils voulaient sonder l'époque et les circonstances marquées par l'Esprit de Christ qui était en eux et qui attestait d'avance les souffrances de Christ et la gloire dont elles seraient suivies. Ça veut dire que quand Christ a souffert à la croix, ceux qui en avaient la révélation devaient savoir que c'est ce qui avait été écrit antérieurement par les prophètes. D'ailleurs, personne n'a compris à ce moment-là. Une obscurité totale a envahi le mont Golgotha au moment où le Seigneur était en train d'agoniser. Ce qui fait le visage défiguré qu'Ésaïe décrit, personne n'a pu le voir parce qu'il faisait de profondes ténèbres. Son côté percé, on ne le voyait pas, et pourtant le côté percé avait une grande, une glorieuse promesse. Les meurtrissures qu'il avait subies pour les malades, parce que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Les meurtrissures qu'il a subies étaient invisibles du fait de l'obscurité. Et aujourd'hui encore, cette obscurité demeure chez ceux qui n'en ont pas la révélation. Il est important que Dieu qui est lumière lui-même nous éclaire. Nous éclaire sur ce qui s'est passé au calvaire. Et nous éclairant sur ce qui s'est passé au calvaire, ça ne peut que pousser chacun à abandonner ses bêtises. S'il aspire vraiment à recevoir les promesses que Dieu a faites concernant tous ceux qui croiraient. Ce qui est prévu pour vous et moi, c'est à Dieu de nous révéler cela. Avoir cette révélation, pendant que pour beaucoup, c'est peut-être un homme ordinaire qui passe, mais que pour vous, que cela ne soit pas un homme ordinaire, que cela soit quelqu'un d'autre. Mais pour les siens, il n'y a pas de problème. Parce que quand il leur parle, il y a toujours quelque chose qui se passe au-dedans d'eux. Lorsqu'il vous aborde et qu'il vous parle, ça fait bouger le cœur. Ça fait réchauffer le cœur. Quel que soit l'état dans lequel vous êtes. Vous pouvez être joyeux, vous pouvez être triste, comme Cléopas et son compagnon. Ils étaient tristes et Luc nous dit même que leurs yeux étaient empêchés de le voir. Il y a plein de choses, eux c'était la tristesse ce jour-là, qui les empêchait de le reconnaître. Mais quand il va briser le pain devant eux, c'est alors qu'ils vont le reconnaître. Parce qu'ayant fait ce qu'il a fait quelques jours auparavant, au milieu d'eux, et ils l'ont reconnu. Ils sont rentrés, après avoir reçu la prédication le matin qu'il est ressuscité, quand ils sont rentrés, d'abord le matin, ils n'ont pas vraiment cru, ils sont partis. Finalement, le Seigneur les rencontre en chemin, il leur parle, il se dévoile devant eux, ils le reconnaissent. Lorsqu'ils font demi-tour, ils disent aux autres, ce qui a été prêché ce matin, c'est vrai. Le Seigneur est vraiment ressuscité. Amen. Oh, si on peut arriver à cette conclusion-là, chacun, ce soir, en rentrant et se disant, le Seigneur est réellement ressuscité. Qu'il est vivant, qu'il est au milieu de nous. Qu'il est vivant, il est avec nous. Et il y a un mystère qui nous dit, l'Église, en fait, elle est bâtie comment ? Elle est bâtie de telle sorte que les membres de l'Église sont là avec Christ en eux. Christ en eux, l'espérance de la gloire. Parce que dans Romains, il y a cette promesse de glorifier les enfants de Dieu, les chrétiens, ceux qu'il a appelés. Romains 8. Verset 28. Nous savons du reste que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son dessein. On n'est pas appelé par hasard, c'est selon un plan bien établi. Car ceux qu'il a connus d'avance, même avant la fondation du monde, il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son Fils, afin que son fils soit le premier-né de beaucoup de frères. Il ne s'arrête pas à la prédestination. Et ceux qu'il a prédestinés, il les a aussi appelés. Appelés à être saints. Et ceux qu'il a appelés, il les a aussi justifiés. Et ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Comment cela ? Christ en nous, l'espérance de la gloire. C'est un mystère. Voir un chrétien qui ne vit plus, mais qui, ce Christ qui vit en lui. Aujourd'hui, nous devons avoir cette grande occasion de le voir partout où nous allons, parce qu'il a des témoins partout dans le monde. Il a des témoins partout ici dans Bruxelles, au moins un témoin par endroit. Quand ce n'est pas une personne, alors c'est la création qui montre qu'il est vivant. Sa création témoigne de sa grandeur, on l'a dit, témoigne de sa magnificence. Quand les hommes ne savent pas témoigner de sa grandeur, la création peut le faire. Le soleil le fait, la lune le fait, toutes ces créatures le font. Si l'homme défaille, la création ne défaille pas. Et même, elle gémit, elle veut voir la manifestation des fils de Dieu. Les saints, ils ont été prédestinés depuis le début. Il les a connus d'avance. Il les a même élus. C'est-à-dire, il les a choisis. Éphésiens, chapitre 1er. Car l'élection est un choix. Il les a choisis. Éphésiens, chapitre 1er. Paul écrit cette épître. Elle n'est pas adressée à tout le monde, à tous les Éphésiens. Dites amen à ça. L'épître de Paul aux Éphésiens est adressée à une catégorie de personnes. Verset 1er, Paul, virgule, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Ça, quand vous écrivez une lettre, c'est ce que vous faites, n'est-ce pas? Vous mettez votre nom d'un côté, vous mettez le destinataire soit ici, soit... Oui, vous le mettez là, et le destinataire est là, il a mis, c'est Paul qui écrit. Et le destinataire, ce sont les saints qui sont à Éphèse, et aux fidèles en Jésus-Christ. C'est à eux qu'il s'adresse. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Il continue. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis. Lui-même, il est saint. C'est pourquoi il dit « nous ». Il est peut-être le moindre, mais il est saint, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Les Éphésiens à qui il s'adresse sont des saints. Donc, il peut dire « nous ». Amen. En lui, Dieu nous a élus. Donc, vous et moi, Paul, vous, les saints d'Éphèse, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde. Il nous a élus pourquoi ? Pour que nous soyons saints. Amen. Et irréprochables devant lui. Ça veut dire que ce mystère caché de tout temps, Dieu a cette ferme volonté de faire connaître, Dieu est déterminé à faire connaître ce mystère à ses saints. Quand quelqu'un dit « Je n'aime pas les mystères », ben, il s'exclut lui-même. Ça va? Quand je lis la Bible, non, moi je ne regarde pas les mystères, je regarde les petites choses. Non, les petites choses et les grandes choses, c'est pour vous. Et si vous êtes saint, la révélation de ce mystère caché de tous les âges, cette révélation est pour vous. Amen. Et irréprochable devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. Nous avons vu les types, tous ces anciens qui ont vécu la vie de Christ, la vie de Dieu. Quand on voit Jacob adopter Éphraïm et Manassé, il accorde à Éphraïm et Manassé le même héritage qu'il accorde à ses enfants qu'il a engendrés. C'est ça, l'adoption consiste à donner le même héritage que vos... Donc, c'est vraiment vos enfants à part entière. Que vous soyez enfant d'adoption ou que vous soyez engendré par le Seigneur, par Dieu, ici il n'y en a qu'un, il y a Jésus-Christ, eh bien, nous sommes co-héritiers avec lui des mêmes promesses, d'un même héritage. N'est-ce pas merveilleux ça? Ah, à être ses enfants d'adoption, nous avons les mêmes droits. Amen. Selon le bon plaisir, les mêmes devoirs aussi, bien sûr. Selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. On a déjà dit ce que signifie favoriser. Favoriser, ça veut dire que bon, si je dois distribuer des choses, de bonnes choses ici, là, tout de suite, je regarde, je dis, tiens, toi, tu peux prendre. Pourquoi? Parce que tu es mon cousin ou tu es mon, je ne sais pas, tu es mon ami, je m'entends bien avec toi, je te favorise. Mais tous les autres, ils doivent peut-être passer un test. Mais vous, vous êtes tellement favorisés qu'ils vous donnent. Hein? Dans une compétition sportive, il y a un arbitre. Si l'arbitre se met à favoriser une équipe, ça veut dire qu'il y a une certaine équipe qui peut commettre des fautes. L'arbitre pardonne les fautes de cette équipe. Par contre, l'autre équipe, lorsqu'elle commet une petite faute, l'arbitre siffle. Dites amen à ça. Les fautes des chrétiens, oh, tant que vous les arrangez, Dieu ne siffle pas. Vous bénéficiez de sa grâce, cette grâce merveilleuse. Amen. Et vous allez demander, mais et lui alors, pourquoi lui, ce que je fais selon mon bon plaisir, dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. C'est l'avantage des saints. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, heureux l'homme à qui le péché est pardonné, dit David. Il devient léger, il saute, il danse comme on a chanté. Il est heureux que sa grâce que Dieu a répandue abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. L'intelligence, c'est de comprendre ce que Dieu a dit il y a longtemps par ses prophètes. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Amen. Selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre en exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Il nous a fait connaître le mystère. Amen. Ce mystère caché. Les saints, donc, sont des élus que Dieu a choisis avant la fondation du monde. Abraham était un élu. S'il faut prendre cet exemple-là, ça veut dire que Dieu l'avait choisi. Et Dieu lui dit qu'il l'a choisi. Genèse 18. Verset 16. Ces hommes, ceux qui accompagnaient le Seigneur, ces hommes se levèrent pour partir. Et ils regardèrent du côté de Sodome. Abraham alla avec eux pour les accompagner. Alors l'Éternel dit, « Cacherai-je à Abraham ce que je vais faire ?» Ça veut dire que ce que Dieu est prêt à faire, Dieu en informe Abraham. Pourquoi ? C'est son bon plaisir. Abraham n'a pas prié pour ça. Dieu est venu, il l'a visité, et il dit, écoute, et Abraham a tout de suite compris ce qui allait se passer. Ça, c'est le côté de celui que Dieu a choisi. Il sent ce que Dieu va faire. Alors Dieu dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Abraham deviendra certainement une nation grande et puissante, et en lui seront bénies toutes les nations de la terre. C'est ce que Dieu va le faire. Car je l'ai choisi, je l'ai élu, afin qu'il ordonne à ses fils et à sa maison, après lui, de garder la voie de l'Éternel en pratiquant la droiture et la justice, et qu'ainsi l'Éternel accomplisse en faveur d'Abraham les promesses qu'il lui a faites. Amen. Alors, ce qui fait que Abraham a cet avantage de se connaître, de savoir ce que Dieu va faire. Et les saints aujourd'hui, en voyant les circonstances marquées, comme on a lu tout à l'heure dans 1 Pierre, c'est marqué par le Saint-Esprit, ces circonstances qui ont été annoncées depuis longtemps. Lorsque nous voyons cela s'accomplir, nous savons ce que Dieu va faire. Du moins, si Dieu nous a révélé ce qui doit arriver. Nous comprenons pourquoi il y a des guerres en certains endroits de la terre. Nous comprenons pourquoi il y a cette course effrénée à l'armement. Nous comprenons pourquoi, ici en Europe, ils se disputent tout le temps dans leurs réunions. Nous comprenons ce qui se passe. Ils ont inclus un petit pays, il n'y a pas longtemps encore, dans l'Union européenne. Ça fait, chaque fois qu'ils mettent un pays supplémentaire, c'est une langue supplémentaire. Quand c'est un Bulgare, quand c'est la Bulgarie, ben, il y a le Bulgare qui vient. Ça va ? Pour le moment, c'est bien. Ils parlent peut-être tous anglais. Mais vous savez, les textes, lorsque les textes sortent en anglais, lorsqu'ils rentrent chez eux, les non-anglophones, d'ailleurs l'Angleterre n'y est plus, lorsqu'ils rentrent chez eux, ils doivent traduire ça dans leur langue. Les problèmes de traduction se posent. Alors, c'est pour ça que parfois, lorsqu'ils rapportent les résultats de leur réunion, il y a des différences dans une chose. En France, par exemple, par rapport à l'Allemagne, il y a des différences. Il peut y avoir des différences avec les Serbes et consorts. Il y a des différences avec les Danois. Parce que chacun essaie de traduire cela dans sa langue. C'est un peu une tour de Babel, où finalement, ils deviennent confus. Dieu va finir par les confondre. Et ici, Abraham, il a tout de suite compris le langage divin. Et non seulement ce qui allait lui arriver, lui, mais aussi ce qui allait arriver à Sodome. Il le savait. Et il va prier, il va négocier, intercéder en faveur de Sodome. Il dit à Dieu, en verset 23, Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu aussi périr le juste avec le méchant ? Peut-être y a-t-il 50 justes au milieu de la ville. » Abraham, on ne voit nulle part où Dieu dit que maintenant je vais... Dieu lui dit juste, je vais descendre, je vais voir s'ils ont agi entièrement selon le bruit venu jusqu'à moi. Et si cela n'est pas, je le saurai. Il dit ça. Mais Abraham sait ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'il y a une destruction qui pend. Et il va prier pour eux. Ça, c'est le privilège que vous avez de savoir ce qui va arriver à cette terre très bientôt. Si vous êtes un saint de Bruxelles ou d'Éphèse, que sais-je, mais un saint, même le moindre, quand vous voyez ce qui se passe, vous êtes censé savoir ce qui va arriver. Amen. Et nous savons tout. Et même lorsque Nous sommes frappés, soit de maladies, soit de deuil, soit toutes sortes de choses semblables. Nous savons, vous savez que la résurrection, dans 1 Corinthiens 15, Paul dit, c'est un mystère. Ça aussi, c'est un mystère. Mais c'est révélé à ses saints. Ce qui fait, ça adoucit nos douleurs. Ce qui fait, ça nous rend, j'aime pas trop ce mot, mais on va toujours le dire, ça nous rend résilients, même à la douleur. On sait que quelque part, là à Golgotha, il a souffert plus que moi. Il a été jusqu'au bout. On a cette assurance que ce qui nous est promis, nous le recevrons. Ce n'est pas la souffrance qui va enlever cela. Dans le psaume 105, on va terminer. Le psalmiste nous exhorte, je ne sais pas qui c'est, peut-être c'est David, je ne sais pas. Au verset 4, il nous est dit, « Ayez recours à l'Éternel et à son appui. » Amen. Il nous exhorte, « Cherchez continuellement sa face, ne vous relâchez pas. » Souvenez-vous des prodiges qu'il a faits, de ses miracles et des jugements de sa bouche. La chorale chante ça parfois. Postérité d'Abraham. Si vous êtes de la postérité d'Abraham, ce psaume s'adresse à vous. Son serviteur, enfant de Jacob, ses élus. Amen. Et Jacob avait ce privilège parmi les peuples de recevoir la révélation de la parole de Dieu. C'était un privilège que Jacob avait. Psaume 147. Verset 18. Il envoie sa parole et il les fond. Ils font les morceaux de glace. Il fait souffler son vent et les eaux coulent. Amen. Il révèle sa parole à Jacob. Dites amen à ça. Jacob a cet avantage de recevoir la révélation de la parole de Dieu. Ses lois et ses ordonnances à Israël. Les autres d'Israël, qui ne sont pas de Jacob, eh bien, eux ne reçoivent que les lois et les ordonnances. Mais les élus, ils ont la révélation de la parole. Et bon, toutes ces choses, Jacob est devenu plus tard Israël, les lois et les ordonnances lui sont données. Par contre, pour ce qui est en ce qui nous concerne, nous les nations, il n'a pas agi de même pour toutes les nations. Et elles ne connaissent point ses ordonnances. Louez l'Éternel. Pourquoi est-ce qu'elles ne connaissent pas ses ordonnances? Eh bien, cela ne leur a pas été annoncé. Amen. Quant à vous, cela vous est annoncé. Et ces ordonnances, vous avez intérêt, nous avons intérêt à les suivre, à obéir. Il y a des promesses derrière cela. Il y a des bénédictions derrière cela. Celui qui obéit, qui entend les paroles de cette loi, qui les met en pratique, voici les bénédictions qui en découlent. Amen. Celui qui reçoit cela reçoit des bénédictions. Ça n'a pas changé. C'est toujours pareil aujourd'hui. Hein? Si tu obéis à la voix de l'Éternel, c'est Deutéronome 28. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville. Le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Ta corbeille et ta huche seront bénies. L'Éternel te donnera la victoire sur tes ennemis qui s'élèveront contre toi. Vous avez tout cela, ce sont des bénédictions. Et quand vous savez que ce sont des bénédictions, vous allez les rechercher avec ferveur. Vous allez vous y attacher. C'est le privilège des élus. Dieu ne vous cache rien. Il vous dit ce qu'il va faire. Comme il a dit à Abraham, il vous dira la même chose. Te cacherai-je ce que je vais faire? Il vous révèle des mystères cachés. Et pour que ces mystères cachés vous soient révélés, il faut que cela vous soit donné. Cela n'a été donné qu'aux disciples. Le royaume des cieux est aussi un mystère. C'est aussi un mystère. Beaucoup parlent de ce royaume, mais ils n'en ont pas la révélation. Pourquoi ? Parce que quand ils lisent la Bible, ils la lisent en parabole. La Bible est écrite en parabole. Et comme c'est écrit en parabole, il est difficile de comprendre. Ça désoriente et l'intelligent et l'insensé. Ça désoriente tout le monde. Mais c'est Dieu qui rend intelligent pour que nous puissions comprendre ce qui est dit. Dans Matthieu 13, le Seigneur va apporter plusieurs paraboles, il va en proclamer plusieurs, concernant le royaume des cieux. Le royaume des cieux est semblable, le royaume des cieux est semblable, et ainsi de suite. Eh bien, les disciples vont s'étonner et vont lui poser la question, mais pourquoi tu annonces toutes ces choses en parabole. Pourquoi tu leur parles en parabole à tous ces gens ? Matthieu 13, verset 10. Les disciples s'approchèrent et lui dirent, « Mais pourquoi leur parles-tu en parabole ?» Jésus leur répondit, « Parce que vous, il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. » Dites amen à ça. C'est le privilège que vous avez. Alors maintenant, ce soir, la question est posée par Ésaïe. N'est-ce pas? Et nous allons prier à nous, à chacun, de répondre dans son cœur. Parce que cela concerne chacun. La question est posée. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Question. Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Amen. Heureux celui qui aura reconnu le bras de l'Éternel. C'est par révélation que l'on reconnaît ce bras. C'est un homme méprisé et abandonné. Homme de douleur. Il s'est élevé comme une faible plante. L'aspect n'avait rien pour nous plaire. Mais pour ceux qui ont cru, voici les bénédictions. Il a porté vos souffrances. Vos douleurs, il s'en est chargé. Pendant que les autres le considéraient comme puni, frappé, hein, Dieu est humilié, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Aujourd'hui, nous sommes en paix avec Dieu, parce que le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. Et pour ceux qui sont malades ce soir, sachez ceci, c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Que son nom soit loué. Prions le Seigneur. Que Dieu vous bénisse. Dieu notre Père, lorsque la question a été posée, « Qui dites-vous que je suis ?» que Pierre a dit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Le Seigneur lui a répliqué disant, « Tu es heureux. » C'est un bonheur que de recevoir cette révélation d'en haut. Non seulement de qui est Jésus-Christ, mais aussi de ce que tu comptes faire, de ce que tu vas faire. Non seulement cela, mais de ce que c'est que l'Église, de ce que tu comptes faire dans l'Église. Oh, c'est un mystère pour le monde, mais aujourd'hui pour les saints, c'est révélé et clair. C'est pourquoi les saints n'ont pas honte de venir se mettre à tes pieds. C'est pourquoi ils n'ont pas honte de témoigner de ta bonté, de ta grandeur. Parce qu'ils savent, comme Moïse autrefois savait, ce que renfermait vraiment ton appel, l'élection. Jacob le savait. Il voulait ce droit d'aînesse. Ce que tu mets en réserve, tes saints le veulent absolument. Aussi, donne-nous la foi, selon qui nous est dit que la foi elle-même est une révélation. Donne-nous cette foi qui obtient les promesses. Comme nous l'avons vu, au travers des douleurs, au travers des souffrances, malgré les obstacles, que nous soyons persévérant. Pas persévérant sur la moitié du chemin, mais persévérant jusqu'à la fin. Dans chaque heure ici présent, il y a un besoin. Ainsi que nous l'avons vu la fois passée, il y a un besoin que tu as vu dans nos cœurs. Il nous a dit que nous avions besoin de persévérance. C'est parce que toi, tu sais ce que nous réserve le coin de la rue. Tu sais ce que nous réserve demain. Tu sais ce que nous réserve, ce qui nous reste encore à vivre ici sur cette terre. Parfois, ça peut être des situations difficiles, compliquées, mais c'est pourquoi aujourd'hui, tu nous dis encore que nous avons besoin de persévérance. Nous ne nous relâchons pas. Et alors, tu te dévoileras toi-même devant nous. Nous aurons cette révélation comme ceux d'autrefois que tu es le secours qui ne manque jamais dans la détresse. Et tu es celui qui nous apaise de toutes nos angoisses. Tu nous en délivres. Sois béni, sois loué. Si tu tardes à venir, pourvoi encore pour les autres réunions? Non, chaque cœur ici présent, non seulement chaque cœur, mais il y a aussi des corps dans l'affliction. Oh Seigneur, c'est que tes enfants te demandent, soit pour eux-mêmes, soit pour des êtres chers. Toi qui connais nos besoins avant que nous n'ouvrions nos bouches, veuille tout simplement l'accorder. Et ainsi, l'honneur, la louange et la gloire ne reviendront qu'à toi seul. Béni soit ton saint nom. Le nom merveilleux de Jésus-Christ, notre Seigneur, par lequel nous t'adressons notre prière. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.